Et les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
Patricia Charbonnier.
Le temps sera très instable en début de semaine avec de la pluie et le redoux qui va gagner du terrain demain vers les régions de l'Est. Mais la météo s'annonce très agitée avec de la pluie toute la journée entre les frontières de l'Est, le Massif central et le Sud-Ouest. Ces pluies gagneront le quart Sud-Est dans l'après-midi. On attend des cumuls assez importants, notamment sur la Corse, sur le Sud-Ouest. De fortes chutes de neige sur les Alpes du Nord avec un risque d'avalanche qui sera très marqué demain. Et sur la moitié nord du pays, le temps restera assez nuageux avec de fréquentes averses, parfois fortes, orageuses, accompagnées de grésils sur les côtes de la Manche et sur la Bretagne. Avec des températures en forte hausse demain matin sur le quart nord-est du pays. 3 degrés à Nancy, 4 à Dijon et dans l'après-midi, on attend 17 degrés de maximum à Perpignan, 11 à Quimper, 9 à Paris.
Vous écoutez France Info, il est 18h. Le journal de Pierre Boudias. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Un détenu d'un quartier de haute sécurité peut-il bénéficier d'une permission ?
Polémique dans le milieu carcéral après qu'un prisonnier de Vendin-le-Vielle ait obtenu le droit de sortir pour une journée demain, considéré comme l'un des 100 narcotrafiquants les plus dangereux de France. Il doit se rendre à un entretien ce lundi. Explication dès le début de ce journal. Plus de journées de travail, mais des après-midi plus ludiques. C'est ce que recommande la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant qui rendait ses travaux aujourd'hui. Mais si art, bricolage ou cuisine sont plébiscités, les syndicats des professeurs d'EPS regrettent que le sport passe au second plan. Boualem Sansal sort du silence. Une dizaine de jours après sa libération des prisons algériennes, l'écrivain revient ce soir sur ses un an passé derrière les barreaux. Il décrit notamment la solitude du milieu carcéral, vous l'entendrez. Et puis le plan de paix américain pour l'Ukraine, loin de convaincre, même aux États-Unis. Et une Française qui brille sur les circuits de course automobile, c'est à retrouver dans ce journal. L'un des 100 narcotrafiquants considérés comme les plus dangereux de France va donc retrouver provisoirement la liberté demain. Incarcéré depuis cet été à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vielle, il a obtenu une permission d'une journée, une décision qui ulcère une partie des syndicats. Mais aussi le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, appelle sur X ce soir à revoir pleinement le cadre législatif de l'application des peines. Pierre de Cossette, âgé de 52 ans, le prisonnier au cœur de cette polémique, est donc décrit comme un important baron de la drogue.
Oui, c'est un visage bien connu des policiers de Seine-Saint-Denis, membre d'une fratrie réputée pour avoir régné sur le trafic de drogue à la Courneuve, condamné en 2012 avant qu'un commando armé ne l'aide à s'évader lors d'un passage à l'hôpital. Libérable en 2029, il a demandé une permission de sortir pour se rendre chez un possible futur employeur. Autorisation accordée vendredi par la cour d'appel de Douai contre l'avis du directeur de la prison, du procureur et du procureur général. Thomas Jacot, secrétaire national du syndicat UFAP, n'en revient pas.
Qu'on puisse savoir aujourd'hui un détenu qui bénéficie d'un régime strict encadré en détention, des parloirs hygiaphones à qui on empêche tout contact avec l'extérieur, le voir sortir de l'établissement par la porte d'entrée, puis revenir le soir de lui-même sans escorte, sans rien. En fait, on est dans un espèce de grand écart cérébral qui est insupportable pour tout le monde.
Alors l'avocate du détenu, Marie Violot, considère de son côté que cette décision est parfaitement logique, prise par plusieurs magistrats indépendants et y voit un système de réinsertion qui fonctionne. Une permission de sortir qui court sur toute la journée de demain avec plusieurs enjeux pour l'administration pénitentiaire, que le détenu regagne bien sa cellule le soir sans rien dans les poches et qu'il n'ait pas de contact autre que ce possible futur employeur durant la journée.
Pierre de Cossette. Et sur France Info, la secrétaire générale du syndicat national des directeurs pénitentiaires s'étonne, elle, de la polémique provoquée par cette permission. Pour Flaviro, elle découle du principe d'individualisation de la peine, un principe constitutionnel. Comment rendre l'école plus supportable pour les élèves ? La question sur laquelle ont planché pendant 6 mois les membres de la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant. 133 citoyens tirés au sort et plusieurs recommandations. Une semaine de 5 jours avec cours le mercredi, un début de journée retardé à 9h pour les collégiens et lycéens, la réduction des effectifs dans les classes et l'allègement des programmes scolaires, mais aussi des enseignements théoriques le matin et plus pratiques l'après-midi. Parmi eux figure le sport au même titre que les arts, le bricolage, la cuisine, la couture ou encore la plomberie. Un plan qui ne fait donc pas que des heureux. C'est le cas de Coralie Bénèche, co-secrétaire générale du SNEP FSU et professeure d'EPS dans l'Académie de Paris. Elle regrette que le sport soit relégué au second plan.
On passe après le bricolage. L'EPS, donc l'éducation physique et sportive, qui est obligatoire, je le rappelle, dans les programmes de la maternelle jusqu'à la terminale, eh bien aujourd'hui passe Après, des savoirs, on ne dit pas que ce n'est pas important à un moment donné de s'interroger, je dis bien de s'interroger si ça doit avoir lieu à l'école, mais il n'empêche qu'on passe après le bricolage. On s'interroge énormément, y compris aujourd'hui où on sait que la question de l'augmentation du temps de pratique physique est un enjeu essentiel lorsque l'on voit toutes les études faites sur l'état de santé de nos enfants. En EPS et au SNEC, on milite pour qu'il y ait 4 heures d'éducation physique et sportive pour toutes et tous, parce que l'EPS, c'est le seul lieu obligatoire de pratique physique. Et en fait, plus on diminue le temps scolaire, plus on augmente les inégalités.
Coralie Bénèche au micro de Benjamin Recouvreur.
À 18h05 sur France Info et Boualem Sansal qui sort du silence.
Après un an passé dans les prisons algériennes, l'écrivain libéré il y a une dizaine de jours s'exprime pour la première fois sur son expérience derrière les barreaux ce soir. Au micro de nos confrères de France Inter, il décrit notamment la solitude qu'il a pu ressentir malgré une routine qui peut parfois, selon lui, s'installer.
La prison, on peut s'y habituer. Hein. Il ne faut pas croire que c'est si terrible que ça.
Ah bon ?
Oui, on s'habitue. On a des amis, on a sa petite routine, la cellule, la cour, l'infirmerie. Parce qu'on est dans une prison, on est obligé de garder sa souffrance pour soi.
Oui.
Les prisonniers ne communiquent pas sur ça.
Oui.
C'est silence. On pleure dans sa cellule le soir, tout seul, dans sa tête. Intérieurement, on se ferme. On peut être très volubile. Bon, je suis volontiers avec les gardiens, je blague et tout ça, venez voir faire du sport, un truc, machin. Mais intérieurement, on se ferme. Être prisonnier, c'est une humiliation. On vous fout du matin et du soir. Vous êtes comme un toutou. Viens ici, assieds-toi là-bas, va là-bas, truc. Mange, assieds-toi. C'est terrible. On est un chiot, quoi.
L'écrivain Boualem Sansal au micro de Benjamin Duhamel et de Florence Paracuelos. Une interview à retrouver en longueur demain à 8h20 sur l'antenne de nos confrères de France Inter. Les responsables américains et ukrainiens saluent les bons progrès dans les pourparlers en Suisse. Première réaction ce soir à la réunion qui se tenait à Genève autour du plan de paix proposé par les États-Unis. Plus tôt, le président Volodymyr Zelensky s'était lui félicité que le dialogue ait été ravivé, mais de nombreux observateurs s'inquiètent toujours des 28 points proposés par Washington, jugés trop favorables à Moscou, au point même parfois de douter de l'origine de ce projet et de se demander qui en est à l'origine. La question taraude notamment les dirigeants européens, mais également certains sénateurs américains aux États-Unis. Les explications d'Agathe Mahuet.
Ce sont 3 élus du Sénat américain, un républicain, une démocrate et un indépendant, qui ont semé le doute ces dernières heures en rapportant un échange avec le chef de la diplomatie Marco Rubio, selon lequel ce plan initial en 28 points ne correspond pas à la position américaine, mais représente une initiative de Moscou. Un texte comme un simple point de départ à des discussions incluant une liste de souhaits russes pour les conditions d'une paix en Ukraine et qui n'avait pas vocation à être divulgué, mais qui a fuité. Des propos démentis dans la foulée par le secrétaire d'État américain qui est aujourd'hui présent en Suisse. Marco Rubio affirme au contraire que la proposition de paix a bien été rédigée par les États-Unis, sans convaincre pourtant certains alliés de l'Ukraine comme le Polonais Donald Tusk, qui se dit prêt à travailler sur ce plan malgré quelques réserves. Avant de commencer notre travail, nuance le dirigeant, il serait bon de savoir avec certitude qui est l'auteur de ce plan et où il a été élaboré.
Agathe Mahuet, alors qu'il semblait ouvrir la porte aux négociations hier, Donald Trump s'est fendu d'une nouvelle charge contre ses alliés ce dimanche sur son réseau social. Il accuse l'Ukraine, je cite, de ne pas faire preuve de gratitude envers les États-Unis. Il accuse également les Européens de financer l'effort de guerre de Moscou en continuant à acheter son pétrole.
Et puis une Française qui affole déjà les compteurs.
Elle s'appelle Doriane Pain et elle a remporté hier à Las Vegas l'édition 2025 de la Formula Academy, un championnat de monoplace de type Formule 4 réservé aux femmes et créé en 2023. La pilote a 21 ans et pour elle, Nourdine Zidane, la seconde tentative aura été la bonne.
Le point et l'index levé, Doriane Pain laisse exploser sa joie à bord de sa monoplace argentée. Vice-championne du monde la saison passée, elle est sacrée cette année grâce à sa régularité. 4 victoires en 14 courses sans jamais terminer au-delà de la 6e place.
Merci beaucoup pour avoir contribué à ce succès. Vous m'avez beaucoup aidé depuis le début de ma carrière. Je vous aime les gars.
Merci à chacun d'entre vous. Quel boulot vous avez fait.
Familière des pistes automobiles depuis l'âge de 9 ans, elle est repérée début 2024 par Mercedes, qui l'intègre à sa filière jeune pilote, dont est issu George Russell, le pilote F1 de l'écurie allemande, au micro de Canal+.
Oui, je suis très heureux pour Dorian qu'elle ait gagné la F1 Academy. Elle travaille si dur cette année. Elle nous demande souvent des conseils. Elle n'est pas timide, elle n'a pas peur de poser des questions.
La F1, c'est le rêve de celle que l'on surnomme la fusée de poche en raison de sa petite taille, 1m59. Seules 5 femmes y sont parvenues dans l'histoire de la discipline. La dernière, c'était l'italienne Giovanna Amati, il y a 33 ans, mais elle n'avait pas réussi à franchir le cap des qualifications et à disputer un grand prix.
Noureddine Zidane, et puis un tout petit mot de Ligue 1, puisqu'on joue en ce moment sur 3 terrains. Lorient mène 1-0 à Nantes, Toulouse est menée sur le même score sur sa pelouse par Angers, 1 partout entre Brest et Metz. C'est la mi-temps sur toutes les pelouses.
C'était Pierre Boudias.
Les idées reçues, ils font bouger les lignes, ils se confient à Paul Larouturo. Découvrez pour info le nouveau podcast vidéo sur la chaîne YouTube de France Info.
Personnalités connues ou moins connues, ils viennent partager avec moi leur histoire, leurs convictions, leurs engagements.
Pour info, présenté par Paul Larouturo, le podcast vidéo qui met en lumière ceux qui racontent notre époque.
À retrouver sur la chaîne YouTube de France Info et sur l'application Radio France.
Il est 18h11 sur France Info. Comment éviter une paix trop défavorable? C'était tout l'enjeu des discussions du jour à Genève pour les diplomates ukrainiens et européens, alors que Donald Trump met une pression maximale sur Kiev pour accepter son plan de paix avec la Russie. On en parle tout de suite.
France Info, 17h20. Thomas Séchier.
C'est donc à Genève, en Suisse, que se sont tenues des négociations entre Américains, Ukrainiens et Européens sur le fameux plan de paix proposé par Donald Trump. Vendredi, discussions qui se sont terminées il y a quelques minutes. Bonsoir Eric Bégala.
Bonsoir.
Les Ukrainiens et les Européens qui avaient l'ambition de corriger ce plan en 28 points, plan américain jugé très favorable à la Russie. Mais Donald Trump a remis, Eric, la pression cet après-midi sur l'Ukraine.
Oui, dans un post sur son réseau social, Truth Social, Donald Trump a en effet fustigé les Ukrainiens dont, je le cite, « les leaders n'ont exprimé aucune gratitude pour nos efforts ». 20 minutes plus tard, l'un des participants à la conférence de Genève, Rustem Umerov, qui dirige le Conseil de sécurité en Ukraine, répondait pour ainsi dire à Donald Trump sur sa chaîne Telegram qu'il appréciait que les partenaires américains travaillent étroitement avec nous et comprennent nos réticences. Nous espérons faire davantage de progrès aujourd'hui, écrivait-il. Et justement, les deux délégations viennent de sortir et première déclaration, c'est que des progrès ont été faits. Alors, pour revenir sur le poste du président américain, il ne faut probablement pas trop se focaliser sur une pression sur l'Ukraine mise par Donald Trump. Il s'agit juste d'une phrase, au détour d'une très longue péroraison, dénonçant surtout, comme il aime à le faire, la politique de son prédécesseur à la Maison-Blanche, rendant l'administration Biden responsable de cette guerre et répétant que si l'élection de 2020 ne lui avait pas été volée, ce sont ses termes, il n'y aurait jamais eu de guerre en Ukraine. Son poste sur Truth Social est clairement à destination politique, politique interne américaine s'entend.
Alors, que sont venus, Eric, chercher les Ukrainiens à Genève aujourd'hui ?
Eh bien, très probablement des précisions quant aux garanties de sécurité si une paix ou même un simple cessez-le-feu devait se concrétiser. Pour les Ukrainiens, la meilleure des garanties de sécurité, ce n'est pas d'avoir des avions américains ou des troupes européennes en Ukraine, c'est de pouvoir disposer d'une défense solide face à la Russie si celle-ci devait réattaquer. Toute limitation de son volume ou de sa qualité, le plan prévoyait une réduction du corps de troupes de l'armée ukrainienne d'un tiers, tout ça va clairement à l'encontre de la solidité de cette défense. De même que les échanges territoriaux inclus dans ce plan. Abandonner par exemple toute la partie non encore occupée par les Russes dans la région administrative de Donetsk, c'est aussi abandonner l'essentiel des lignes de défense physiques construites par l'armée ukrainienne et sur lesquelles justement l'armée russe bute depuis 2014. Abandonner la ceinture de forteresse établie dans l'oblast de Donetsk reviendrait à tout simplement baisser la garde face à l'armée russe qui, selon le plan, devrait juste se contenter de promettre de ne pas partir à l'assaut. C'est ça, surtout, que les Ukrainiens vont tenter de faire comprendre aux Américains.
Merci beaucoup, Eric Bégala. Nous sommes en ligne avec Bertrand Badie. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur émérite des universités à Sciences Po Paris, spécialiste des relations internationales. Alors, il y a un certain nombre de déclarations en cette fin d'après-midi. Il y a évidemment du langage diplomatique. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer que l'Ukraine ressortent satisfaites de ces discussions qui ont lieu aujourd'hui à Genève ?
Satisfaite est un terme difficile à employer en ce moment, mais tout est une question, je dirais, de perception et de crédibilité. À partir de quel niveau la Maison-Blanche, le président Donald Trump, percevra que la résistance ukrainienne à ce plan risque de faire capoter son initiative. Si véritablement le front commun européen et ukrainien est crédible, à ce moment-là, effectivement, le président des États-Unis peut revoir sa copie. Pourquoi ? Parce que il y a deux éléments dans la tête du président des États-Unis. Réussir un coup diplomatique, on connaît cette obsession, et d'autre part, obtenir grâce à ce plan de paix une situation nouvelle dans laquelle on retrouverait le beau temps de la cogestion américano-russe sur le monde. Alors, les deux ne vont pas forcément ensemble. Si on veut véritablement établir un succès diplomatique, il faut quand même convaincre au minimum les Ukrainiens. Pour convaincre les Ukrainiens, il faut que la pression européenne ne soit pas trop forte non plus. Il faut que les Ukrainiens aient le sentiment qu'ils n'ont pas le choix. Si la solidité du soutien de l'Europe à l'Ukraine est très claire et incontestable, à ce moment-là, effectivement, Vladimir Zelensky s'engagera dans une tentative de renégociation dont on perçoit quand même à l'horizon quelques éléments.
Lesquels ?
Eh bien, on voit bien qu'il y a eu quelques timides pas en arrière du président des États-Unis lorsqu'il a fait valoir que ce plan n'est pas définitif, quand il a plus ou moins laissé fuiter que c'était un modèle inspiré par des aspirations russes, mais que les États-Unis pourraient peut-être quelque peu remodeler l'ensemble. Il montre que la porte n'est pas tout à fait fermée, mais selon son habitude, il y a une pression rhétorique, l'accusation portée à l'égard de l'Ukraine d'être ingrate, l'accusation portée à l'égard de l'Europe, tout ceci, effectivement, laisse planer une certaine incertitude, d'autant plus complexe que, vous savez, derrière ce dossier, il n'y a pas que le dossier russo-ukrainien. Il y a en même temps le dossier américano-européen, russo-européen, et même, je dirais, peut-être aussi le dossier européo-ukrainien. Donc, tout ceci se combine selon des modes d'équilibre assez subtils. Il est trop tôt pour savoir ce qu'il en est.
Vous avez peut-être vu la déclaration de François Hollande. Bertrand Badie, l'ancien président, estime aujourd'hui que le plan Trump pour l'Ukraine a deux conséquences historiques et dramatiques. La première, c'est la capitulation de l'Ukraine. L'autre, c'est la relégation de l'Europe sous la tutelle d'un condominium russo-américain, relégation au rang de spectatrice assiégée. Est-ce que vous partagez cet avis ?
Oui, enfin, peut-être sans le formuler de cette manière, mais il est une chose certaine, c'est que Donald Trump et Vladimir Poutine pensent à l'ancienne, c'est-à-dire selon des modèles d'équilibre de puissance et de rapport de force qui marquaient notamment le temps de la guerre froide. Dans cette façon de penser, à partir du moment où le président des États-Unis fait comprendre qu'il ne soutiendra pas absolument l'Ukraine jusqu'au bout de ses exigences, et là, le message est clair, c'est une façon de donner un feu vert à la Russie. Et c'est la raison pour laquelle ce plan de paix est un plan terriblement belligérant. Et il ne faut pas le séparer de toute cette ambiance que l'on entend en Europe occidentale sur les risques d'une guerre. Et là, de ce point de vue-là, je pense que l'analyse de François Hollande est tout à fait fondée. Ce plan constitue un danger de bien des points de vue, parce que effectivement, il crée chez un dirigeant à l'ancienne comme Poutine l'idée qu'il peut y aller, et il peut y aller jusqu'au bout, que l'Europe toute seule ne pourra pas grand-chose. Dans le plan de paix, il est indiqué qu'il y aura une négociation entre l'OTAN et la Russie avec la médiation des États-Unis, ce qui veut dire que les États-Unis, de facto, ne sont plus dans l'OTAN. Donc, tout ceci, ce sont des signaux d'offensive pour le Kremlin. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. Et puis, l'autre élément d'une extrême gravité, c'est que depuis 1945, il n'y a plus eu, jamais eu, de modifications territoriales avalisées par un traité de paix. Les quelques modifications territoriales, comme par exemple la sécession de l'Abkhazie ou de l'Ossétie du Sud qui appartenait à la Géorgie, n'ont jamais été reconnues sur le plan juridique. Ce serait donc la première fois qu'une cession de territoire obtenue par la force serait reconnue en termes de droit, ce qui serait un précédent extrêmement grave, parce que nous ne sommes plus à cette époque où on jouait des territoires. Depuis, il y a du droit international, depuis, il y a des opinions publiques, des sociétés, et donc on se demande avec inquiétude ce que la réalisation d'un plan aussi dangereux pourrait impliquer pour l'avenir immédiat et plus lointain.
Un retour en arrière à vous comprendre, Bertrand Badi. Merci beaucoup, professeur émérite des universités à Sciences Po Paris. Je cite votre dernier ouvrage, L'art de la paix, paru chez Flammarion. Le fil info dans un instant.
Les éditions Radio France présentent
France-Algérie, anatomie d'une déchirure.
Un livre de Thomas Negaroff et Benjamin Stora.
Hérité d'une longue colonisation et d'une guerre d'indépendance sanglante, l'histoire commune de ces deux pays reste à vif. Après la libération de Boualem Sansal, la réconciliation est-elle possible?
Un ouvrage clair, enrichi de cartes.
France-Algérie, anatomie d'une déchirure.
Un livre France Inter.
France Info, 17h-20h.
Il est 18h21, c'est le fil info de Stéphane Milhomme avec à la une cette première prise de parole de Boualem Sansal depuis sa libération.
C'était dans le journal de 18h de France Inter avant une plus large diffusion demain matin à 8h20. L'écrivain franco-algérien l'assure, être prisonnier c'est une humiliation. Il revient largement sur les conditions de sa détention en Algérie pendant une année. Il a été gracié il y a quelques jours par le président algérien. Interview de Boualem Sansal également dans le 20h de France 2. Les responsables américains et ukrainiens saluent ce soir les bons progrès dans les pourparlers en Suisse sur le plan de Donald Trump. Le président ukrainien a affirmé ces dernières heures que ce plan de paix américain reflétait la plupart des priorités clés de son pays. Une réunion se poursuit à Genève ce soir entre Américains et Ukrainiens, mais aussi avec une délégation européenne. Et au Liban, Israël affirme avoir tué le chef d'état-major du Hezbollah dans sa frappe sur Beyrouth, ce que ne confirme pas en l'état le mouvement pro-iranien. Le bilan monte à 5 morts au moins et une trentaine de blessés. Le président libanais appelle la communauté internationale à intervenir avec force pour arrêter les attaques d'Israël.
France Info.
Et voici France Info Junior. Cécile Ribot-Cayol et son invité nous proposent une visite guidée de l'exposition consacrée au manga. C'est au musée Guimet à Paris.
Au milieu des porcelaines, sculptures et des estampes japonaises, place au manga qui orne les murs du musée Guimet. Manga tout un art, c'est le titre de cette exposition exceptionnelle qui vient d'ouvrir au musée Guimet et jusqu'au 9 mars prochain. Bonjour Estelle Bauer.
Bonjour.
Vous êtes la conservatrice des expositions japonaises du musée Guimet. Un grand merci d'ouvrir les portes de ce magnifique musée à nos journalistes en herbe du jour. Ils s'appellent
Gaston, Alexandre, Mathieu et Adam.
Je crois qu'on peut partir pour une visite guidée qui va être exceptionnelle avec vous. Cette Bauer. On vous suit ?
Ouais. Donc là, on arrive dans la première salle dans laquelle on trouve à la fois des planches de manga, donc des vrais dessins faits par des mangaka, et aussi du théâtre de papier, le Kamishibai, qui est un peu l'origine, enfin une des origines du manga, c'est-à-dire c'était comme du théâtre ambulant, mais avec un conteur qui raconte des histoires avec des planches qu'il montre les unes après les autres.
Qui a créé le premier manga et en quelle année ?
Ouais, alors ça, c'est une bonne question, mais c'est difficile de répondre et de dire exactement en quelle année. En tout cas, dans l'exposition, le manga le plus ancien qui est présenté, le, disons un vrai manga avec des cases et des bulles, c'est Norakuro, donc Norakuro, le petit chien noir, un chien soldat, et qui a été inspiré par Félix le Chat. Vous pouvez voir ici. Hein. En fait, c'est avant la guerre, ça date des années 1930, et là, c'est plutôt proche de la bande dessinée, mais on lit déjà de la droite vers la gauche. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est vraiment déjà la bande dessinée en noir et blanc. Mais ça ressemble un petit peu à du théâtre en fait. On a l'impression que les personnages sont debout sur la ligne de la case, comme s'ils marchaient sur une scène de théâtre.
Pourquoi les mangas sont dessinés en noir et blanc ?
Ah, alors là, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est une raison économique, comme ils doivent produire de manière très rapide. Ben voilà, on dessine juste et parce que mettre la couleur, appliquer la couleur, ce serait plus long. C'est aussi moins cher d'imprimer en noir et blanc. Et puis, je pense qu'il y a aussi une tradition au Japon. Hein. Le Japon, c'est un pays depuis des siècles où on écrit et on dessine avec un pinceau et de l'encre. Donc, il y a un vrai goût pour le noir et blanc.
Que signifie le mot manga ?
Ça, c'est une question qui n'est pas simple. En fait, le mot manga, au départ, ça signifie dessin varié. Ga, ça veut dire dessin. Et man signifie varié, spontané, l'idée aussi de quelque chose qui est très vaste, un peu comme un océan. Donc on peut traduire aussi par océan d'images. Mais le mot ensuite a évolué et donc à la fin du 19e siècle, les Japonais l'ont utilisé pour traduire le mot caricature. Et c'est seulement dans les années 1920 à peu près qu'il a été utilisé pour traduire le mot bande dessinée. Ça c'est un Dragon Ball. Voilà, vous voyez, c'est un dragon. C'est une statuette qui a été offerte par le shogun à Napoléon III, il y a à peu près 150 ans. Si vous regardez bien, on voit qu'il y a un dragon qui semble émerger des flots et qui porte une boule de cristal. Donc, vous voyez, l'idée d'associer un dragon à une boule de cristal, en fait, ça existait déjà bien avant la création du manga.
Sur cette boule de cristal, j'ai remarqué qu'elle est transparente, alors que dans Dragon Ball, elle est plutôt orange et il n'y a pas les étoiles dessus.
Ah, bah c'est une belle remarque. Ce n'est pas exactement la même chose, effectivement. Dans Dragon Ball, l'auteur a dû s'inspirer de la tradition, mais il l'a réinterprétée, il l'a transformée à sa manière.
Je voudrais savoir dans quel manga on peut retrouver la grande vague de Hokusai.
Alors, la grande vague de Hokusai, on la retrouve encore dans One Piece.
Et on la retrouve dans cette exposition aussi ?
Alors oui, dans cette exposition, on la retrouve. Donc on va voir la vraie grande vague de Hokusai, mais on va aussi voir comment est-ce qu'elle a été déclinée dans la bande dessinée contemporaine française.
Et je voulais vous demander si dans cette exposition, il n'y avait que des mangas japonais ou aussi des français ?
Que de mangas japonais. C'est vraiment une exposition sur, voilà, sur le manga japonais, mais l'affiche a été faite par un mangaka français, Renaud Lemaire.
Il y a combien d'œuvres qui sont exposées ici ?
En gros, il y a à peu près 600 œuvres qui sont exposées, donc c'est considérable. Et il y a environ 130 pages de planches originales de manga.
Merci beaucoup à nos journalistes en herbe de France Info Junior et à vous surtout, Estelle Bauer, conservatrice des collections japonaises ici au musée Guimet.
Manga tout en art.
C'est jusqu'au 9 mars.
Il ne faut pas la rater. Arigato
gozaimasu. Arigato gozaimashita.
Sayonara.
France Info Junior avec Cécile Ribaud-Cayol ce dimanche. La météo arrive.
Regardez ce film, c'était une surfeuse. Il y a un requin blanc qui lui avait mangé la jambe. La mère, elle était pleine de sang. Le soir, j'oublie rien, donc ça revient.
Moi, ça passe jamais. Quand je regarde un truc qui fait peur, ça passe jamais.
Les images ont toujours un impact sur nos enfants. Découvrez comment les aider à ne pas subir sur arcom.fr.
L'Arcom est le régulateur de la communication audiovisuelle et numérique.
Après la découverte du feu qui a changé le cours de l'humanité, après la création de l'ampoule électrique et l'invention du télescope, voici probablement la plus grande innovation qui a changé la vie des patrons de PME.
Avec Onto, vous fixez des plafonds mensuels pour chaque carte. Vous êtes notifié en temps réel des dépenses de vos équipes et vous validez leurs demandes en un clic. En bref, vous faites gagner à votre équipe finance jusqu'à 2 heures par semaine en moyenne. Et ça, ça change la vie. Onto. Total Economic Impact, réalisé pour Conto par Forrester Consulting 2025.
France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission. S'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
Patricia Charbonnier.
Le temps sera très instable en début de semaine avec de la pluie et le redoux qui va gagner du terrain demain vers les régions de l'Est. Mais la météo s'annonce très agitée avec de la pluie toute la journée entre les frontières de l'Est, le Massif central et le Sud-Ouest. Et puis gagneront le quart Sud-Est dans l'après-midi. On attend des cumuls assez importants, notamment sur la Corse, sur le Sud-Ouest. De fortes chutes de neige sur les Alpes du Nord avec un risque d'avalanche qui sera très marqué demain. Et sur la moitié nord du pays, le temps restera assez nuageux avec de fréquentes averses, parfois fortes, orageuses, accompagnées de grésils sur les côtes de la Manche et sur la Bretagne, avec des températures en forte hausse demain matin sur le quart nord-est du pays. 3 degrés à Nancy, 4 à Dijon et dans l'après-midi, on attend 17 degrés de maximum à Perpignan, 11 à Quimper, 9 à Paris.
Merci d'écouter France Info. Bonne fin de journée, il est 18h30. Un nouveau point sur l'info avec vous, Stéphane Milhomme.
Et la première prise de parole de Boualem Sansal depuis sa libération. Être prisonnier, dit-il, c'est une humiliation. Dans une prison, on est obligé de garder sa souffrance pour soi. Il le dit à France Inter dans une interview qui sera diffusée demain matin à 8h20. L'écrivain franco-algérien récemment gracié par l'Algérie interviendra également dans le 20h de France 2 ce soir, présenté par Laurent Delahousse. Et les discussions se poursuivent à Genève pour le sort de l'Ukraine. Les responsables américains et ukrainiens saluent déjà les bons progrès dans les pourparlers autour du plan proposé jeudi dernier par Donald Trump. Pourparlers qui se poursuivent ce soir depuis la Suisse. À Kiev, cette fois, Volodymyr Zelensky se dit personnellement reconnaissant envers Donald Trump. Une déclaration après un poste critique du chef de la Maison-Blanche qui trouvait que l'Ukraine ne faisait preuve d'aucune gratitude à l'égard des États-Unis. En France, notre cadre législatif d'application des peines doit être pleinement revu. Réaction de Gérald Darmanin. Alors qu'un détenu de la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil va bénéficier d'une permission de sortie pour un rendez-vous avec un futur employeur, le garde des Sceaux, sans dédouaner cette décision de justice, réagit à l'indignation des gardiens de prison. Le président libanais lui appelle la communauté internationale à intervenir avec force pour arrêter les attaques d'Israël après cette frappe au sud de Beyrouth. Israël assure maintenant avoir tué le chef d'état-major du Hezbollah, ce que ne confirme pas encore le mouvement pro-iranien. Le bilan est de 5 morts au moins et 28 blessés. Au Nigeria, 38 fidèles kidnappés lors de l'attaque d'une église mardi dernier ont été secourus. C'est le président de l'État africain qui le confirme. 50 des quelques 300 élèves enlevés cette fois dans une école catholique se sont échappés après là aussi plusieurs séries d'enlèvements ces derniers jours. Le sport et la Ligue 1 de football avec 4 matchs en cours pour cette 13e journée et l'Olympique Lyonnais s'en sort bien avec un match nul, 0 partout chez Auxerre, la lanterne rouge du classement. Mais l'OL n'a gagné aucune de ses 4 dernières rencontres.
C'était Stéphane Milhomme pour l'info. A tout à l'heure Stéphane, et vous restez avec nous dans une vingtaine de minutes à 18h50. C'est ma santé conseil, on verra si les nouveaux médicaments pour lutter contre l'obésité sont efficaces. Mais d'abord, la politique et la stratégie de la France insoumise pour les municipales.
France Info, 17h-20h, Thomas Séchier.
C'est aujourd'hui que la France Insoumise lançait officiellement sa campagne pour les élections municipales du mois de mars prochain avec une convention organisée à Aubervilliers, au nord de Paris. Bonsoir Rémi Lefebvre.
Bonsoir.
Politologue, spécialiste de la gauche, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille. On va parler des ambitions des LFI pour ce scrutin, alors que jusqu'à présent, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon ne brille pas lors des élections locales. Il est faiblement implanté. Il ne dirige d'ailleurs qu'une dizaine de mairies aujourd'hui. Elia Bergel, c'est la première fois que les Insoumis se lancent à fond dans des élections municipales.
Oui, les Insoumis changent de braquet. Résumé de Paul Vanier, le monsieur élection de LFI.
En 2020, nous étions en soutien à des listes citoyennes dans un peu moins d'une centaine de communes. Et en 2026, nous serons présents dans plus de 500 communes.
Comme à Lyon, derrière la députée Anaïs Belouassa-Cherifi, qui promet un programme de rupture pour la ville.
La réquisition des logements vacants, il y a un enfant sur 5 qui va à l'école le ventre vide. Nous proposons des petits déjeuners gratuits, une cantine gratuite.
À Lyon, comme à Paris ou Marseille, les Insoumis envoient des candidats contre des maires sortants, écologistes ou socialistes. La division, ce n'est pas nous, se défend pourtant Manuel Bompard, coordinateur national LFI.
J'observe pour l'instant que le Parti Socialiste, en l'occurrence, a dit dans ses différentes communes qu'il ne pouvait être question de faire alliance avec la France Insoumise, ni au premier, ni au second tour.
Ça sera très dur de remporter des villes, reconnaît toutefois un député insoumis. Selon un cadre du parti, LFI ne dirige qu'une dizaine de mairies pour le moment, des communes de taille moyenne ou de petite taille. Mais cette irruption des Insoumis au municipal fait enrager au PS. Un maire qui se représente l'an prochain accuse LFI de vouloir, je cite, « plumer la volaille socialiste ».
Et derrière les municipales, LFI se projette aussi sur les sénatoriales, Élie.
Oui, car qui dit conseillers municipaux dit grands électeurs pour les élections sénatoriales. Le prochain scrutin, c'est en septembre 2026, quelques mois après les municipales. Et oui, LFI y pense, assume Paul Vanier.
C'est important parce que beaucoup de choses se jouent aujourd'hui au Sénat. Dans ce moment de crise de la Ve République, cette Assemblée concentre des pouvoirs.
En ce moment, avec une Assemblée nationale sans majorité, incapable de s'entendre sur un budget, le Sénat a un rôle plus important que d'habitude dans l'élaboration du projet de loi de finances. Mais au-delà de ça, pour les Insoumis, l'enjeu central, c'est d'occuper tous les terrains, Assemblée, mairie, Sénat, pour préparer au mieux la candidature quasi certaine de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle 2027.
Elia Bergel, service politique de France Info. Rémi Lefebvre, il y a donc un vrai changement de stratégie chez LFI, l'ambition de ne plus être qu'un parti de présidentielle, mais d'exister aussi au niveau local.
Oui, c'est très très clair, c'est un changement très 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 net par rapport à 2020. À l'époque, les cadres de la France Insoumise ne cachaient pas qu'ils souhaitaient enjamber ces élections municipales, que ça ne les intéressait pas vraiment, qu'ils ne voulaient pas qu'on compte en fait qu'on compte un petit peu les performances en fait des élections de la France Insoumise aux élections locales. Donc ils s'étaient cachés derrière des listes citoyennes. La situation a changé, on va être à un an de la présidentielle et donc la France Insoumise, pour diverses raisons, va beaucoup plus politiser et s'investir dans ces élections municipales pour très clairement exercer un pouvoir de nuisance sur les autres forces de gauche et préparer la candidature de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi parce qu'il y a des militants à la base de la France Insoumise, des députés qui veulent exercer des responsabilités locales, qui veulent s'investir au niveau local, notamment parce qu'ils se projettent dans un avenir d'un au-delà de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il incarne la France Insoumise, mais ça sera sans doute sa dernière campagne présidentielle. Et donc, tous ces cadres, ces militants, ils veulent installer la France Insoumise dans le temps long. Et ça passe en France par l'investissement incontournable des collectivités locales et de l'échelle territoriale.
Est-ce que ça peut être aussi l'occasion pour les Insoumis de nuire au Parti Socialiste ? On rappelle que tous les candidats qui font plus de 10% au premier tour des municipales sont qualifiés pour le second tour. Ça veut dire que dans plusieurs grandes villes, Paris ou Marseille par exemple, il pourrait y avoir un candidat insoumis au second tour face à un socialiste.
Tout à fait. Donc très clairement, l'idée c'est aujourd'hui il y a évidemment un rapport de force très important entre forces de gauche. La gauche est très divisée. La France Insoumise notamment est ce pôle incarné par Olivier Faure et Marine Tondelier qui ont promis une élection primaire. Et donc la France Insoumise veut construire son leadership présidentiel. Et pour cela, elle doit affaiblir en fait ses ex-partenaires du nouveau Front Populaire. Et dans beaucoup de villes, effectivement, vous avez raison, mais Marseille, Lyon, peut-être Lille, la France Insoumise est dans une situation où elle va faire des scores, notamment parce qu'elle est très implantée dans les métropoles et dans les quartiers populaires. On l'a vu très très clairement aux dernières élections législatives. Et elle va être dans certaines villes en situation d'arbitre. C'est-à-dire que les socialistes, les écologistes auront sans doute besoin des voix de la France, des électeurs insoumis au deuxième tour, et donc ils seront sans doute contraints de faire des alliances. Il faut préciser aux auditeurs que aux élections municipales, on peut se maintenir avec 10% des inscrits au deuxième tour, et pour fusionner avec d'éventuelles d'autres listes, il faut faire 5%. Voilà. Donc la France insoumise pourra se maintenir ou non au deuxième tour, et elle pourra jouer un rôle assez décisif pour l'élection ou la défaite dans un certain nombre de communes de gauche. On va avoir des élections municipales au deuxième tour à gauche qui vont être très compliquées.
Est-ce que c'est un ballon d'essai aussi avant la prochaine présidentielle, une façon de tester les forces en présence ?
Oui, bien sûr. La France Insoumise s'est beaucoup implantée territorialement, notamment à travers son réseau de députés. Entre 2017 et 2022, la France Insoumise, c'était 17 députés. Là, c'est trois fois plus. Et beaucoup, beaucoup de députés à Roubaix, à Toulouse, à Marseille, à Montpellier sont candidats aux élections municipales. Donc, préparent leur ancrage, préparent les prochaines élections présidentielles. Et donc, aujourd'hui, la France Insoumise utilise un peu toutes les échelles pour mettre en mouvement ces militants, créer une dynamique. Il y a aussi la question qu'on n'a pas encore évoquée des 500 signatures. Hein, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut 500 signatures de maires notamment. Et donc, ça, c'est toujours une épreuve assez difficile pour Jean-Luc Mélenchon parce qu'il n'a pas d'élus locaux. Ça participe d'une construction d'ensemble. Et effectivement, ces élections municipales, on le voit, hein, les insoumis les préparent très, très attentivement. C'est même le parti politique qui a le programme le plus abouti sur ces questions-là. Hein. L'Institut de la Boétie a produit un rapport, un livre, etc. Donc, beaucoup, ça prouve que la France Insoumise, qui est aujourd'hui une organisation assez répulsive dans l'opinion publique, hein, beaucoup de gens mettent à distance la France Insoumise, mais c'est sans doute un des partis les plus organisés et structurés aujourd'hui dans le paysage politique français.
Il y a un souvenir qui est à la fois cuisant et pas très ancien pour LFI, c'est cette municipale anticipée qui a eu lieu à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, en début d'année. Le candidat, vous parlez des députés LFI qui briguaient des mairies, eh bien Louis Boyard, justement, a été largement battu au second tour à Villeneuve-Saint-Georges, ville pourtant jeune, très populaire, un terrain a priori favorable. La droite était divisée en face et pourtant, il a perdu largement au second tour. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que ça veut dire que l'image de LFI s'est dégradée depuis la dernière présidentielle ?
Oui, elle s'est dégradée et en plus concrètement, c'est pas parce que la France Insoumise prépare très bien ses élections municipales qu'elle peut gagner beaucoup de villes. Ça va être très très compliqué pour la France Insoumise parce que au niveau local, la politique locale, c'est une politique souvent très consensuelle de rassemblement, on met peu en avant ses étiquettes partisanes et c'est vrai que la France Insoumise tranche beaucoup avec cette culture locale de rassemblement. Et d'ailleurs, on voit très très mal comment la France Insoumise puisse gagner beaucoup de villes, peut-être Roubaix, c'est peut-être là la ville où la France Insoumise a le plus de chance, parce que pour être maire, il faut rassembler. Or, en fait, la France Insoumise clive beaucoup. Par ailleurs, il y a aussi une autre difficulté, c'est que on voit, par exemple, dans une ville comme Fâche-Thumesnil, bon, qui est la plus grande ville que la France Insoumise dirige, hein, c'est dans la banlieue lilloise, 18 000 habitants, que très souvent, le programme de la France Insoumise est inadapté, en fait, à l'exercice du pouvoir local, qui est un exercice souvent gestionnaire. D'ailleurs, on peut le déplorer, hein, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre au niveau local, notamment à cause de l'intercommunalité. Et donc, du coup, c'est pas facile du tout pour. C'est bien d'avoir un programme ambitieux, mais c'est plus compliqué de le mettre en œuvre, surtout qu'il faut en fait faire des alliances. La France Insoumise pourra très. Il y a très peu de chances qu'elle puisse diriger beaucoup de villes toute seule, donc il faudra qu'elle fasse des alliances et elle fera des alliances avec le Parti Socialiste qui est plus modéré. Donc la France Insoumise devra composer. Donc la politique locale, c'est l'art du compromis.
D'un mot, Rémi Lefebvre, Jean-Luc Mélenchon, candidat en 2027, il n'y a vraiment aucun doute aujourd'hui ?
Aucun doute, absolument aucun doute, sauf problème de santé, sauf tout est fait pour que Jean-Luc Mélenchon soit candidat. Hein, la France Insoumise, c'est très clair, met en avant de plus en plus une équipe, hein, on le voit très bien, Manuel Bompard, Clémence Guettet, Antoine Léaumont, Paul Vanier, mais bon... Très très clairement, Jean-Luc Mélenchon se prépare. D'ailleurs, moi, j'observe que depuis quelques semaines, on l'entend de manière d'adopter un discours un peu différent, plus présidentiel, plus posé, moins clivant. Jean-Luc Mélenchon sera candidat à l'élection présidentielle pour donc la quatrième fois. Hein. Ça sera sans doute sa dernière fois. Et la France Insoumise, je le répète, c'est une machine politique très organisée, très peu démocratique, mais aussi très dynamique. Et donc, elle est en branle. Ça y est, la France Insoumise a commencé sa campagne présidentielle. Elle commence cette campagne présidentielle avec les élections municipales de mars prochain.
Merci beaucoup, Rémi Lefebvre, politologue, professeur à l'Université de Lille. Vous êtes également chercheur au CERAPS et je cite l'ouvrage que vous avez co-signé au PUF, des élus déclassés, point d'interrogation. On va parler du Darfour à présent, une semaine après le passage du numéro 2 de l'ONU dans cette région. L'aide humanitaire sur place reste précaire d'après Handicap International. Seul un quart des besoins financiers sont aujourd'hui couverts dans le camp de Tawila, alors que la crise humanitaire dans la zone est considérée comme l'une des plus importantes du moment. La gestion humanitaire de cette guerre est en faillite. Elle repose sur quelques ONG, parmi lesquelles plusieurs françaises, Étienne Monin.
C'est un hasard, mais Jérôme Bertrand est arrivé dans le camp de Taouila quelques jours après la prise de la ville d'El Facher par les paramilitaires. Il travaille pour Handicap International. Il a découvert le camp de réfugiés au plus fort de la crise.
Vous avez une population comme celle de la ville de Lyon qui vit sous des bâches, dans des abris en paille. Et qui ont plus rien pour survivre.
Avec la chute de la ville d'El Facher, Taouila a connu une surcrise. Des milliers de réfugiés supplémentaires ont convergé vers cette zone, menacée sur la route par les paramilitaires.
Il y a de plus en plus de monde qui arrive de nuit, et ceux-là ont des blessures aux coudes et aux genoux, parce qu'en fait, ils ont rampé pendant des centaines de mètres, voire peut-être plusieurs kilomètres, pour échapper à ces groupes en fait, qui les menacent. Ils sont blessés, il y a des blessures par balles, il y a des blessures de torture, et il y a effectivement ces marques aux coudes et aux genoux qui sont très marquantes.
Les ONG n'ont pas de stock sur place, elles travaillent, on pourrait dire, à flux tendu. Les camions peuvent mettre 2 mois avant d'arriver, freinés par les contraintes administratives et sécuritaires.
À cause du contexte sécuritaire, les routes principales d'accès au camp de Taouila ne sont plus utilisables. Tous les camions qui apportent de l'aide sont obligés de traverser une zone qui s'appelle le Djebel Mara, qui est une zone montagneuse, volcanique, et doivent passer par des pistes, mais des pistes qui sont improvisées.
Les ONG sont aujourd'hui en échec. Elles sont une quinzaine à tenir l'aide humanitaire à bout de bras dans le camp, mais elles n'arrivent pas à répondre aux besoins, regrette Jérôme Bertrand.
On se retrouve en fait à devoir faire des choix en fait en termes de qui est-ce qu'on aide et qui est-ce qu'on n'aide pas. Quand vous avez des nouveaux arrivants, vous devez décider à qui vous allez donner de quoi survivre, parce qu'il ne s'agit que de ça, donner de l'eau pour boire, donner à manger pour survivre. Donc c'est ces choix-là, ces dilemmes inhumains auxquels on fait face.
Et cette situation au Darfour illustre l'effondrement de l'aide humanitaire institutionnelle avec le retrait des financements américains depuis Donald Trump et l'absence de l'ONU qui ne parvient pas à déployer sa logistique pour répondre aux besoins.
Étienne Monin sur France Info. Le Fil Info arrive.
Dès le 8 janvier 2026, TGV Inouï lance Optimum, une nouvelle classe premium pour les professionnels. Sophie, commerciale dans une TPE, voyage régulièrement et a testé Optimum de TGV Inouï en avant-première. Pour elle, le vrai plus, c'est la flexibilité. Pouvoir modifier ou échanger son billet sans frais jusqu'à 30 minutes après le départ, même si le train est complet et avec des prix fixes. Avec Optimum de TGV Inouï, elle dispose d'un espace exclusif et d'un service client très réactif.
Voir conditions sur tgvinouï.sncf.
T'as choisi ?
Je crois que je vais y aller.
Ça va pas ?
Je me sens vraiment fatiguée. J'ai de la fièvre, des douleurs thoraciques, j'ai du mal à respirer.
Ces symptômes ne sont pas anodins. Ils peuvent être dus à une pneumonie à pneumocoque, une infection respiratoire d'origine bactérienne aux conséquences parfois graves. Chaque année, elle touche des milliers de patients à risque. Pourtant, c'est une maladie que l'on peut prévenir par la vaccination et les gestes barrières. Vous êtes peut-être à risque. Parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Cette campagne d'information est menée à l'initiative de l'entreprise de santé Pfizer.
France Info, 17h-20h.
À suivre, les pandas chinois du zoo de Beauval qui vont faire leur retour en Chine. Mardi, on en parle juste après votre Fil Info, Stéphane Milhom. 18h46 à la une, Américains et Ukrainiens qui saluent les bons progrès dans les pourparlers en Suisse sur l'Ukraine.
Discussion sur le plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Les délégations poursuivent leurs pourparlers dans la soirée et les Européens entendent aussi amender ce plan en 28 points. Cette fois depuis la capitale ukrainienne, Volodymyr Zelensky se dit personnellement reconnaissant vers Donald Trump. Une déclaration après un poste critique du chef de la Maison-Blanche qui trouvait que l'Ukraine ne faisait preuve d'aucune gratitude à l'égard des États-Unis. Une prise de parole très attendue de Boualem Sansal et lourde d'enjeux diplomatiques. Première interview dans le 20h de France 2 de l'écrivain américain. Après avoir été gracié par le président algérien, il s'exprimera aussi demain matin à 8h20 sur France Inter, interrogé par Florence Paracuelos et Benjamin Duhamel. 3 matchs en cours dans la 13e journée de Ligue 1 de football. Auxerre et Lyon se sont quittés sur un match nul. 0 partout.
France Info.
Bientôt l'heure du départ pour les 2 des 4 pandas hébergés au zoo de Beauval dans le Loir-et-Cher. Les visiteurs sont venus aujourd'hui faire leurs adieux au couple qui repartira mardi pour la Chine. Retour anticipé hein, car la femelle souffre d'une insuffisance rénale. Cela fait 13 ans que ces pandas sont en France. En fait, ils sont loués hein, par la Chine. Il faut payer environ 1 million de dollars pour en héberger un. Ce retour en Chine est donc une décision avant tout commerciale, estime le sinologue Jean-Philippe Béja, directeur de recherche et mérite écrit au CNRS.
Ce que je pense, c'est que le zoo de Beauval ne veut pas risquer que ce panda meure chez lui parce que les dédommagements, je suppose, seraient encore beaucoup plus importants. Donc, c'est une affaire plus commerciale que diplomatique. En l'occurrence, je ne pense pas que ça change grand-chose aux relations franco-chinoises. La diplomatie du panda, c'est quand on offre des pandas à un pays pour lui montrer qu'on a de bonnes relations avec lui et pour améliorer ses relations. Mais quand le panda rentre, maintenant, depuis 1984, en fait, on ne donne plus les pandas, on les loue, on les prête contre espèce
une somme d'argent.
Oui. Et donc c'est pas véritablement la même chose.
C'est tout de même un symbole important. Ça reste un signe de confiance quand même entre deux pays, le fait que la Chine prête ou loue, comme vous dites, un panda à un pays.
Pas véritablement. Enfin, je pense que c'est. Oui, bien sûr, on peut dire qu'on ne louerait pas un panda à un pays ennemi, mais je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est le signe d'une très bonne relation étroite. Alors, par contre, effectivement, il y a eu ces tentatives, notamment pendant les années. Évidemment, ça a commencé dans les années 50, mais surtout dans les années 80, il y a eu cette diplomatie du panda qui était très active. On a commencé avec Nixon. En 1972, on avait donné deux pandas à Nixon et ça a été le signe évidemment du réchauffement des relations sino-américaines qui avaient été très froides. Et puis il y a eu cette tentative avec Taïwan aussi. En 2006, les Chinois ont voulu donner deux pandas à Taïwan. On les appelait d'ailleurs Tuan Tuan et Yuan Yuan, ce qui signifiait unification. Mm. Alors évidemment, à l'époque, c'était le parti indépendantiste qui était au pouvoir et il a refusé. Mais quand le Kuomintang de Ma Ying-jeou est arrivé au pouvoir, a été élu en 2008, il a accepté justement les pandas qui sont d'ailleurs toujours aux eaux de Taïwan. C'est effectivement le symbole, si vous voulez, d'une volonté d'établir de bonnes relations avec un autre pays.
Il y a un intérêt aussi en termes de soft power pour la Chine de prêter ces pandas qui ont été très populaires, par exemple en France, aux zoos de Beauval, ils sont devenus le symbole un peu du zoo. Ce sont comme des ambassadeurs un petit peu de la culture chinoise dans les pays où ils sont prêtés, où ils sont loués.
Bon, il faut quand même bien dire que le panda n'a pas un grand rapport avec la culture. Il se trouve que les pandas vivent en Chine, mais vous avez raison, c'est effectivement un élément du soft power chinois, mais ça dépend essentiellement de la partie qui reçoit. C'est parce que pour le zoo de Beauval a communiqué énormément autour de ces pandas, on dit « Ah, ces pandas, ils sont mignons », etc. Oui. Et donc les gens, effectivement, le considèrent comme un symbole de la Chine. Mais plus ou moins, vous savez, souvent en Chine, quand on parle des pandas, on parle de la police secrète.
Jean-Philippe Béja, directeur de recherche émérite au CNRS et aux séries de Sciences Po, spécialiste de la Chine, il répondait sur France Info à Benjamin Recouvreur. Dans quelques minutes, la playlist de France Info avec du jazz ce dimanche. Et d'abord, c'est Ma Santé Conseil avec les hôpitaux de Paris, APHP. Et cette question, les nouveaux médicaments pour lutter contre l'obésité sont-ils efficaces? Catherine Potier et son invité.
Comment lutter contre l'obésité? De nouveaux médicaments sont arrivés sur le marché, des médicaments dits GLP-1. Alors, est-ce qu'ils sont beaucoup plus efficaces que les autres? À qui s'adressent-ils? Quels sont les risques s'ils ne sont pas bien utilisés? C'est Ma Santé Conseil maintenant avec Sébastien Tchernikov. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de nutrition à l'Université Paris-Cité, chef du service nutrition de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Quand on parle de ces nouveaux médicaments, quelle est leur action sur le corps et sur le cerveau?
Ces nouvelles molécules, elles cherchent à finalement mimer l'effet des hormones naturelles qui contrôlent l'appétit. Et donc ces nouveaux médicaments vont envoyer un signal au cerveau qui va être un rassasiement plus fort, plus durable, plus rapide et qui va réduire finalement la sensation de faim, qui va donner envie de manger moins, mais qui va aussi ralentir la digestion, ce qui va avoir un effet de rassasiement sur le long cours.
Et à qui s'adressent ces médicaments? Alors, à partir de quel moment on peut dire cette personne est dans un état d'obésité?
L'obésité, elle est définie partout dans le monde par un indicateur qui s'appelle l'indice de masse corporelle, qui est un rapport du poids en kilos sur la taille en mètres au carré. Alors aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé a permis de donner une nouvelle façon, une nouvelle définition de la gradation de l'obésité et de ses complications, qui ne va pas uniquement se baser sur l'indice de masse corporelle, mais qui va par exemple utiliser des notions de retentissement sur la qualité de vie. On comprend bien qu'au-delà du poids, si on n'est pas capable de marcher 50 mètres ou 100 mètres parce qu'on a une arthrose évoluée des genoux, ou par exemple parce qu'on a eu un événement cardiovasculaire par le passé, eh bien, bien entendu, le niveau de complexité de l'obésité n'est pas le même. Et de la même façon, il existe en France une organisation des soins pour permettre aux patients, en fonction justement de son niveau d'IMC et de son niveau de complications associées à l'obésité, d'être orienté soit vers le médecin généraliste en première intention, soit vers des médecins spécialistes de ville, soit vers ce qu'on appelle des centres spécialisés obésité, qui vont prendre en charge, en prendre en soin les patients qui ont une obésité les plus sévères et les plus compliquées. Mais le mot-clé, ça va être le long cours pour cette maladie qu'on appelle maladie chronique.
En clair, ce ne sont pas des médicaments que l'on prend parce qu'on veut perdre 2 ou 3 kilos avant d'aller sur la plage l'été.
Absolument, vous avez complètement raison. Ces médicaments ne doivent pas être prescrits en première intention par les médecins. Ils sont prescrits lorsque il y a une prise en charge nutritionnelle, diététique, activité physique, éventuellement psychologique, pendant au moins 6 mois. Et en cas d'échec de cette prise en charge, en l'absence de perte de poids suffisante, eh bien, ces médicaments peuvent être prescrits.
Bon, mais comme tout médicament, il peut y avoir des effets secondaires, j'imagine, des risques.
Bien entendu, c'est la raison pour laquelle ces médicaments ne sont pas faits pour de l'esthétique. Ces médicaments, ils sont faits pour des personnes avec une maladie chronique. Il y a des effets indésirables, principalement des effets indésirables digestifs, nausées, diarrhées, constipation. Il y a un risque de calcul dans la vésicule. Et puis, il y a un risque au long cours éventuel de carences nutritionnelles, des carences en vitamines, par exemple. Et c'est pour cette raison qu'il faut absolument prendre ces médicaments de façon encadrée et avec un suivi médical.
Il y a donc une prescription médicale, et j'insiste là-dessus, ça veut dire attention aux ventes illégales sur Internet. Il y a de faux médicaments.
Oui, les médicaments doivent être achetés en pharmacie avec une prescription médicale et encadrée.
Question importante, est-ce que ces médicaments, ces nouvelles molécules sont remboursées par la Sécurité sociale? Parce que c'est important pour ceux qui auraient besoin de ce type de médicaments.
C'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, ces différents traitements médicamenteux de l'obésité, les TMO, comme on aime les appeler dorénavant, ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Il y a des discussions en cours. Mais c'est un enjeu majeur puisque aujourd'hui, l'obésité représente 18% de la population en France. Si on se focalise sur l'indice de masse corporelle au-delà de 35, au-delà de 40, c'est 6% de la population, donc c'est un sous-groupe de ces 18%. Et si on prend en compte le surpoids plus l'obésité, c'est-à-dire un indice de masse corporelle au-delà de 25 et bien plus, bien c'est la moitié de la population française qui est concernée par cet excès de poids, surpoids ou obésité.
Merci beaucoup Sébastien Tchernikov, chef du service nutrition à l'hôpital européen Georges Pompidou. La lutte contre l'obésité, l'efficacité des nouveaux médicaments, c'est Ma Santé Conseil tous les dimanches avec l'APHP Hôpitaux de Paris sur France Info. Et j'en profite pour citer votre ouvrage Arthrose, arthrite, je me soigne en mangeant, coécrit avec le professeur Selam. Merci à vous.
Et c'était Catherine Potier. Place à la playlist de France Info. Chaque dimanche, les coups de cœur du service culture. Et ce soir, Anne Chepo, vous avez choisi le nouvel album de la chanteuse Marion Rampal.
Song for Abbey est un hommage à la chanteuse de jazz américaine Abbey Lincoln, décédée il y a 15 ans. Musicienne et militante, engagée notamment dans la lutte pour les droits civiques. The music is the magic and the... Music is the magic and the hiding place. It's a place where the spirit is home. Marion Rampal fait sien le répertoire de la chanteuse, loin de toute imitation, dans un style folk jazz. Deux invités sur cet album hommage, le guitariste américain Bill Frisell et le saxophoniste Archie Shepp, 88 ans, qui a travaillé avec Abbey Lincoln et avec lequel Marion Rampal interprète une chanson originale. Parmi les morceaux d'Abbey Lincoln repris par la chanteuse, Learning How to Listen.
I'm learning how to listen, how to hear a melody. How to know the song I'm singing, how to feel and let it be. Learning how to listen for the rhythm of the night, how to keep it very simple, how to make it sweet and light. Learning how to listen, learning how to listen. I'm learning how to listen for the songs I name inside.
Marion Rampal est en concert mercredi et jeudi à Paris, le 12 décembre à Lillebonne et le 13 décembre à Bayeux.
Marion Rampal dans la playlist d'Anne Chépeau sur France Info. La météo arrive et le journal de 19h.
Cerise nous dit pourquoi on peut compter sur Groupama.
Vous êtes perdu, Damien ?
Complètement, Cerise. Ce sont les calculs de ma future retraite et c'est pas simple à comprendre.
Groupama est là. Votre conseiller réalise gratuitement votre bilan retraite pour savoir quand partir, avec combien, et vous propose des solutions d'épargne adaptées à vos besoins.
Ah, ça m'intéresse.
En plus, en ce moment, jusqu'à 200€ sont offerts pour toute nouvelle souscription d'un contrat retraite.
Groupama.
Groupama, toujours là pour moi.
Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupama.fr.
France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission. S'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
Patricia Charbonnier.
Le temps sera très instable en début de semaine avec de la pluie et le redoux qui va gagner du terrain demain vers les régions de l'Est. Mais la météo s'annonce très agitée avec de la pluie toute la journée entre les frontières de l'Est, le Massif central et le Sud-Ouest. Et puis gagneront le quart sud-est dans l'après-midi. On attend des cumuls assez importants, notamment sur la Corse, sur le Sud-Ouest, de fortes chutes de neige sur les Alpes.